Vous écoutez RTL.
Il est 11h03, vous êtes sur RTL. À la bonne heure, voici Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Marie Guerrier. Et naturellement, eh bien, nous vous retrouvons à midi pour faire un nouveau point sur l'actualité. À tout à l'heure Marie.
11h-12h30, Stéphane Bern, à la bonne heure.
Et voilà, nous sommes en direct en public sur RTL à la bonne heure avec notre invité Éric-Emmanuel Schmitt. Bonjour Éric-Emmanuel.
Bonjour.
Je vais vous présenter un peu plus longuement dans un instant, mais je vous présente d'abord tous mes petits camarades. Eh bien, à la une, un nouveau venu parmi nous. Et oui, nous sommes ravis de l'accueillir. Il fait sa rentrée avec nous. C'est Stéphane Blakowski. Stéphane, tous les mercredis.
Bonjour. Moi aussi, je suis ravi. Et flatté. Pensez, la première radio de France. J'avais cru qu'un jour, j'aurais le droit d'y rentrer.
Oui. Quand je pense que je vous ai connu, vous n'aviez pas un cheveu blanc.
Je faisais la queue pour aller aux grosses têtes. Et puis maintenant, voilà, je suis dans le studio. Super.
Et vous êtes entré, voilà. Eh bien, tous les mercredis, vous viendrez nous dire quelle est la personnalité qu'on peut aimer et la personnalité qu'on doit détester dans la semaine.
Voilà, comme ça, vous aurez plus de questions à vous poser.
Voilà, on saura de qui parler dans les dîners en ville. Avec nous également, Régis Maillot. Bonjour Régis. Il est tout fier et tout ragaillardi aujourd'hui, puisque aujourd'hui Elie Semoun n'est pas là. Ah. Il va pouvoir récupérer sa case d'humour.
Non, elle n'avait pas été enlevée.
Ce sera juste après le journal de midi.
Oui, alors effectivement, demain c'est la rentrée des élèves, la rentrée des cancres. Bon, la classe politique l'a déjà faite. Mmh. Eh bien aujourd'hui, j'évoquerai la rentrée des profs. Les profs rentrent un jour avant, on expliquera pourquoi.
Pour préparer,
évidemment.
Ouais, mais à midi, ils ont déjà fini.
Pareil, on était sur place en fait, il y a un petit reportage. Vous allez
voir. Très bien. Et puis Éric Dussard, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous allez nous transformer aujourd'hui en commentateur politique. En tout cas, vous reviendrez sur l'interview d'Emmanuel Macron hier soir au journal de 20h de TF1, qui a permis d'ailleurs à TF1 de faire une de ses plus grosses audiences.
Exactement. Emmanuel Macron, qui une fois n'est pas coutume, nous a pas donné une leçon d'économie, mais une petite leçon de conjugaison avec quelques liaisons très dangereuses. Ouais. Mais pour en savoir davantage, il faudra t'attendre. Le Zabi.
Bah, il a déjà des liaisons dangereuses avec le MEDEF.
Non mais qui j'ai entendu,
sa femme est prof de français quand même, donc
il faut que quelques leçons supplémentaires s'imposent. Hein.
Très bien. Vers midi 20, l'équipe SB, c'est-à-dire l'invité et moi-même, nous allons affronter le reste du monde dans le test à l'aveugle de Patrice Carmouze. Ouais. Je vous rappelle que nous jouons pour des auditeurs, que le gagnant remportera notamment un cartable et une tablette tactile à offrir par Tans, le partenaire évidemment qui fait les cartables, les trousses et tout le matériel scolaire.
Le reste
scolaire.
Du monde va avoir du mal à mon avis.
Ah bon? Oui. Oh bah, pourtant d'habitude vous dites que je vais
en
prendre.
Ça veut dire que ce sont que
cher.
Des c'est chansons pourquoi, qui datent que... de 1930.
Non, non.
Ou
non,
alors
non.
Une spéciale Mireille Mathieu.
Oui, ah oui. Mais non, c'est comme Emmanuel a été consultant pour les JO, ça sera sur les hymnes nationaux.
Ah, j'ai révisé.
On est foutu.
Et le test sera... ben oui, c'est ça.
C'est ce que je dis, ça va être plus dur pour vous.
Et n'oublions pas notre invité surprise du jour. Alors, il est champion. C'est un champion de quoi? Eh bien, c'est quelque chose qui a rapport avec les lettres. Hein, à votre avis?
Ah, bah le scrap.
Et voilà. Réponse.
Fallait pas le dire. Fallait pas demander.
Réponse à 11h40. Allez, je vous présente maintenant notre invité. Traduit dans une quarantaine de langues, il est l'un des romanciers des auteurs dramatiques les plus lus au monde, puisqu'il a déjà vendu pas moins de 14 millions de livres, je crois, peut-être plus depuis. Et il est aussi le dramaturge le plus joué sur la planète devant Molière. De fait, comme ce cher Jean-Baptiste Poquelin, on finit par se demander comment il arrive à tout faire, quand il dort. Car après avoir été consultant tout l'été sur France Télévisions pour les Jeux Olympiques, cet athlète de l'écriture est au cœur de l'actualité littéraire de cette rentrée. Non seulement ses 5 dernières pièces de théâtre sont publiées dans le volume 4 de son œuvre dramatique en livre de poche, mais on joue dans son théâtre Rive Gauche pas moins de 3 spectacles, Petit Crime Conjugaux, Le Chien, et puis Barbara et l'homme en habit rouge avec Roland Romanelli. Mais ce tableau serait incomplet pour un tel boulimique de travail s'il ne sortait en cette rentrée un nouveau roman, philosophique forcément, qui lui permet de continuer à explorer en profondeur non seulement l'âme humaine, mais aussi la sienne. Parce que pour la première fois, il s'est glissé dans son œuvre. Il publie chez Albin Michel « L'homme qui voyait à travers les visages », avec nous l'éminent membre de l'Académie Goncourt. Ben oui, c'est le premier livre qui sort avec cette mention.
Oui,
ben oui, parce que nouveau jeune membre de l'Académie Goncourt, c'est Éric-Emmanuel Schmitt.
Bravo.
Alors, dans un instant, préparez-vous, parce que puisqu'on parle des visages, on va faire une interview tête. Une interview en tête-à-tête.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Et dans la bonne heure ce matin, en direct en public sur RTL, nous recevons Eric Emmanuel Schmidt pour son livre. Mais d'abord, puisqu'on parle de l'homme qui voyait à travers les visages, je vous ai préparé une sorte de tête-à-tête ou de visage-à-visage. Vous êtes écrivain, Eric Emmanuel, mais est-ce que vous pensez avoir le visage ou la tête de l'emploi ?
On m'a longtemps dit que j'avais pas du tout la tête d'un écrivain.
Ah ça, c'est quoi la tête d'un écrivain ?
Ben, ça doit être, je sais pas, Jean d'Ormesson, quelque chose comme ça.
Et ça peut aussi être Michel Houellebecq, et là.
Oui, vous préférez quoi ?
Moi, j'ai mis beaucoup de mal à m'habituer à mon physique. Alors maintenant qu'il puisse passer pour un physique d'écrivain, non, j'ai plus un physique de lutteur.
Les épaules de boxeur. Moi, je suis à côté de lui. Franchement, j'aimerais pas en prendre une parce que grosse carrure.
C'est vrai, hein. Stéphane, vous avez raison. Il a
une carrure, une vraie carrure.
Impose.
Alors voilà, donc de temps en temps quand même je plaide non coupable en disant Hemingway, vous savez, il était costaud, il y a des écrivains.
Mais il était reporter de guerre, d'abord, voilà. Bien sûr. Et qu'est-ce que vous n'aimez pas recevoir en plein visage ? Une mauvaise nouvelle, je sais pas.
C'est... Ah non, parce que la tarte, je ne l'ai jamais eue.
Hein. Oui, non, mais vous n'avez pas été entarté.
Qu'est-ce que je n'aime pas recevoir en plein visage ? Non, ce que je n'aime pas, c'est au fond, c'est l'indifférence.
Donc, on la reçoit jamais en plein visage.
On la reçoit jamais en plein visage, c'est fuyant, c'est encore pire. Les gens qui font comme si vous n'étiez pas là, qui ne notent pas votre présence, qui ne vous reconnaissent pas, je trouve que c'est la pire violence qu'on peut recevoir ou qu'on peut infliger à l'autre.
Et pourquoi est-ce que vous pourriez vous prendre la tête?
Je suis pas du tout un colérique. Je suis vraiment un calme, un serein. Je me mets rarement en colère. Je me prendrais la tête si on touche aux gens que j'aime.
Est-ce que vous avez souvent des idées justement derrière la tête?
C'est mon métier d'aller les chercher.
Et de les mettre dedans.
Et de les mettre dans des livres.
Et ça vous arrive de foncer tête baissée?
Ah, tout le temps.
Tout le temps. Ah oui. Vous êtes un impulsif, en fait.
Oui, d'abord, je suis du signe du bélier.
Ah oui.
Et dès que quelque chose me fait peur, j'ai envie. Je fonce et je réfléchis après. Alors, c'est curieux parce que je passe pour un intellectuel, mais en fait, mon tempérament n'est pas du tout celui d'un intellectuel. D'abord, j'y vais.
Vous allez d'abord.
Ouais, et après, je réfléchis.
Est-ce qu'enfant, vous étiez une sorte de tête de turc à l'école ?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Non, non.
Vous n'étiez pas une tête brûlée non plus.
On va tout les faire. Il nous reste, vous dormez tête bêche ?
Bon, écoutez-vous, avec vos têtes à queue.
Ça, vous avez pas osé la poser à la tête.
Votre tête de quoi ?
Mais écoutez, oui, à partir du moment où j'ai une interview à thème, on va enfiler têtes, toutes les perles.
Hein. Ah, pardon, oui, j'ai peur.
Ça vous fera un joli collier, Eric. Vous êtes plus sensible chez une femme ou chez un homme à la beauté d'un corps ou à celle d'un visage ? Qu'est-ce que vous regardez d'abord ?
Les mains.
Ah, les mains ? Oui.
Parce que les mains, c'est
ce qui trahit l'âge.
Mais c'est ce qu'elle dit, en plus. Les gens voient si la personne est mariée ou pas.
Si elle a fait la vaisselle ou pas.
Par prudence, il faut regarder ça, mais les mains, c'est aussi comment elles sont placées, comment elles accompagnent le discours, est-ce qu'elles sont tournées vers les autres, est-ce qu'elles sont tournées vers soi. Enfin, les mains racontent beaucoup plus de choses que les mots.
On voit la nervosité de Régis qui tripote sensiblement. Ouais.
Vous n'avez jamais eu la grosse tête?
Sûrement si, oui.
Ah oui? Pourtant, on ressent toujours une sorte d'humilité chez vous quand vous voulez parler.
Oui, mais je me soigne.
Oui.
Quand j'ai commencé, je trouvais que tout ce qui m'arrivait était normal. et avec le temps, j'ai découvert que j'avais eu beaucoup de chance.
Et qu'est-ce qui vous fait encore tourner la tête ?
Les mains.
Et vous qui êtes mélomane, vous chantez à tue-tête ? Je vous aurais toutes faites.
Ah, bravo. Alors non, je préfère jouer du piano que chanter parce que j'ai vraiment une voix de cheval de cirque. Je me suis entraîné, j'ai essayé. On m'a dit vous êtes ténor, vous êtes baryton, vous êtes haut de contre. Enfin, c'était la recherche de la voix qui n'existe pas. Donc j'ai fini par me taire.
Très bien. Ben on va vous entendre dans un instant pour parler de l'homme qui voyait à travers les visages. Votre nouveau roman qui est publié chez Albin Michel. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous sommes toujours avec Eric Emmanuel Schmidt de l'Académie Goncourt. Ah non, mais ça pose un homme. comme deux garennes, ça pose un lapin.
Alors ça, on n'était pas obligé.
Joli.
Non, mais ça m'amuse. Oui,
ça vos blagues plaisir. De vacances.
Ben, oui,
ça me fait plaisir de voir pour sa première fois sur la couverture d'un très beau livre, d'ailleurs, de l'Académie Goncourt.
Oui, j'avoue que je la regarde beaucoup plus que les autres couvertures, celle-ci, parce qu'elle me surprend.
Vous vous reconnaissez quand même, quand vous voyez ce titre, vous dites « Ah oui, c'est moi ».
De l'Académie Goncourt, non, pas encore.
Non.
Et pourtant, depuis un an, je mène un rythme de lecture incroyable.
Et oui, vous êtes obligé de lire parce qu'il faut lire tout.
Mais c'est absolument passionnant. On est 10 passionnés de littérature. On se retrouve tous les premiers mardis de chaque mois à parler de littérature. Et là, on a passé l'été à s'envoyer des mails.
Donc c'est mardi prochain.
Oui, jour par jour. J'ai vu ça, j'ai lu ça. Ça, c'est formidable. Ça, c'est moins bien.
C'est 350 bouquins donc, qui sortent là.
Pour l'instant, il n'y a pas de sélection encore.
Et on l'a fait mardi.
D'accord. Vous avez déjà votre chouchou, vous, j'imagine.
J'ai plusieurs chouchous parce qu'en fait, c'est une assez bonne rentrée. Mais en même temps, qui Non, j'ai le droit de rien dire.
Avant mardi, il n'a pas le droit. Alors, on va parler plutôt de votre livre. Votre précédent, c'était La Nuit de Feu, récit dans lequel vous racontiez votre propre expérience dans le désert. Un livre d'ailleurs qui a visiblement beaucoup touché le public. Et cette Nuit de Feu, qui était une expression évidemment empruntée à Pascal, la nuit où il a rencontré Dieu. Il est beaucoup de questions, encore une fois, de Dieu dans ce roman.
Ah oui.
Mais d'ailleurs, dans toute votre œuvre, on sent que c'est une interrogation métaphysique qui ne vous quitte jamais depuis votre premier livre.
Mais comment est-ce qu'on peut vivre sans se poser au moins la question de Dieu perpétuellement? Et surtout, là, et c'est le cadre du livre, comment devant le monde actuel, où il y a des gens qui en tuent d'autres au nom de Dieu, comment ne pas s'interroger sur la violence, sur les hommes et sur Dieu? Qu'est-ce que c'est que ce trio Dieu, homme, violence? Et c'est le sujet de mon livre.
Oui, parce qu'on peut raconter l'histoire. C'est un jeune journaliste. Ça se passe en Belgique, donc j'imagine que vous avez aussi été marqué par les événements qui se sont déroulés à Bruxelles et
alors,
à Zaventem et à Malbec.
J'avais déjà écrit une partie du livre.
Oui.
J'avais écrit tout le début, c'est-à-dire cet attentat qui se produit devant une église, mon héros à l'hôpital, mais il n'est pas touché, mais il voit les conséquences de tout ça dans l'hôpital. Et tout d'un coup, un matin, je me lève et on me dit...
Ça pose pas un problème à l'écrivain, ça? Quand on a écrit quelque chose de terrible et que les faits vous rattrapent.
Sautement, pendant 30 secondes, je me suis senti coupable.
Ouais, hein. Ah oui.
Non, parce que je me dis, je l'ai écrit. Ouais. Je l'ai déjà écrit. Mais en fait, j'ai vite été rattrapé puisque mes proches étaient à l'aéroport, donc j'ai passé trois quarts d'heure à me demander s'ils étaient toujours vivants ou pas. Donc, ça a remis les choses en place. Mais oui, évidemment, je pense que quand on essaie de comprendre de l'intérieur un processus, par exemple le processus qui consiste à devenir violent, ben malheureusement, on prédit l'avenir. Une fois qu'on a compris le processus du fanatisme et du terrorisme, quoi qu'on écrive, on est en train d'écrire l'avenir.
Cela dit, on rencontre vraiment Dieu dans ce roman. Il y a même probablement la première interview inédite de Dieu. Alors, c'est vrai qu'il n'en accorde pas beaucoup.
Non.
Comme Britney Spears.
Ah ben non, c'est pas Sophie Marceau. Hein, c'est ça. Qui est dans tous les genres.
Ça, c'est le cœur du livre.
Mais pour le rencontrer, il faut prendre une substance.
Oui,
c'est l'ayahuasca.
L'ayahuasca,
c'est une sorte de drogue à base de lianes que consomment
les
chamans d'Amazonie.
Exactement.
Et vous en avez déjà pris, visiblement.
Évidemment.
Non. C'est un roman.
Très renseigné, non?
Il y a un personnage qui s'appelle Schmitt, mais enfin bon.
C'est un roman. Le personnage qui s'appelle Schmitt dedans, il dit qu'il n'en a pas pris.
Mais ça veut dire
lequel dit la vérité?
Alors maintenant, je vais poser une question sérieuse quand même. Est-ce qu'on peut croire en Dieu si on est dans un état normal? Ou est-ce qu'il faut prendre une drogue pour pouvoir.
Non, moi, je n'ai pas eu besoin de drogue pour. Avoir le sentiment de la présence de Dieu, c'est ce que j'avais raconté dans La Nuit de Feu. Mais mon personnage, lui, va passer par là, parce qu'au fond, l'hallucination aussi, c'est une forme peut-être de communication et de perte de contrôle. Et donc, quand on perd le contrôle, peut-être quelque chose peut se produire. Et effectivement, il prend ces drogues qu'on connaît aussi par la littérature, à travers toute la génération des écrivains américains, hippies, etc. Et cette drogue le conduit effectivement à rencontrer le grand œil, et le grand œil, c'est Dieu. Et alors il va poser à Dieu les questions qu'on a tous envie de lui poser. Pourquoi d'abord, il l'interroge surtout sur sa carrière littéraire.
Oui, oui, parce qu'il a fait trois livres.
Il a fait trois livres.
L'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran.
Enfin, un bout de temps qu'il n'a rien sorti, d'ailleurs.
Qu'est-ce qu'il y a dans le premier qu'il n'y a pas dans le deuxième? Pourquoi trois, etc.
Il n'était pas sûr de lui.
Est-ce qu'il est content de ses œuvres? Est-ce qu'il pense qu'elles sont bien comprises, etc. Alors, Dieu a un peu des vanités d'auteur, bien sûr. Mais Dieu finit par répondre, et en fait, sous une allure de fantaisie, parce que le livre a l'allure d'une fantaisie, là, on pose des vraies questions sur Dieu écrivain, c'est-à-dire pourquoi est-ce que dans les textes sacrés, il y a des injonctions à la violence, dans tous. Pourquoi, au milieu de phrases qui élèvent, il y a des phrases qui appellent au meurtre,
à la vengeance.
À la vengeance.
Parce que c'est les scènes qui font vendre, ça, les scènes de violence, on en a toujours. Souvent les meilleurs passages.
Stéphane, vous avez raison. Alors, on va se mettre un peu dans. On va se détendre deux secondes. Et avec. On a voulu vous faire plaisir.
Oui.
Mais oui, mais oui. Là, même la programmation musicale d'RTL se met au diapason de l'invité. On va entendre le nouveau titre de Véronique Sanson. Ah. Et je l'appelle encore. Premier extrait de son prochain album, Digne, Dingue, Donc, qui sort.
Non, c'est pas celui-là.
Ce sera Drôle de Vie, je pense.
Il va y avoir un nouveau single qui va sortir.
Ah, oui, mais vous comprenez, vous ne me dites pas pourquoi on ne l'écouterait pas maintenant. Parce qu'elle ne l'avait pas.
Elle n'a pas fini.
Vous ne l'avez pas. Il sort
la semaine prochaine, je crois, le single.
Avec le Beaujolais.
Alors, on va écouter un dernier vers. On va écouter.
Non, Véronique Sanson. C'est pour ça qu'on écoute un dernier.
Et rien que de l'eau pour Stéphane Bern, s'il vous plaît.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Et nous sommes toujours avec Éric-Emmanuel Schmitt, l'homme qui voyait à travers les visages chez Albin Michel. Et à la une aujourd'hui, eh bien Stéphane Blakowski.
À la une, Stéphane Blakowski.
Alors Stéphane, vous avez pris le temps de farfouiller un peu dans les journaux du monde entier pour sélectionner un héros et un salaud. D'un côté, quelqu'un de bien, un héros qui pourra nous servir d'exemple peut-être, et puis de l'autre, un salaud qui est passé du côté obscur de la force et à qui on voudrait surtout ne pas ressembler. Alors vous commencez par lequel aujourd'hui ?
Alors soyons positifs Stéphane, comme demain c'est la rentrée scolaire, je vous ai choisi un héros qui donc a un rapport avec cette actualité de la semaine. Le gars s'appelle Murray Millard et c'est un héros de la science. C'est-à-dire que c'est un chercheur américain qui vient de faire une découverte qui devrait donc révolutionner toutes les méthodes pédagogiques au XXIe siècle. En effet, Murray Millard a prouvé scientifiquement que plus un prof est moche, plus ses élèves ont des mauvaises notes. C'est même pas la peine d'essayer de me dire le contraire en cherchant un contre-exemple. Non, c'est prouvé scientifiquement. Les résultats ont été publiés dans la presse sérieuse. Ça veut dire qu'on en est sûr comme 2 et 2 font 4. Donc, je vous raconte en gros l'expérience. Murray Millard a fait ça avec un cours de sciences nat. Donc, il a utilisé exactement le même cours, enregistré avec exactement la même voix. Sauf que dans un cas, il a montré aux élèves la photo d'un prof hyper beau en disant « Vous voyez, c'est lui qui parle ». Et puis dans l'autre, il leur a montré la photo d'un prof tout à fait moche. Et bien, le résultat est sans appel. Quand on a fait l'interro pour les élèves, ceux qui avaient eu le prof très beau ont eu en moyenne 2 points de plus que le prof moche.
C'est dingue.
Ça veut dire que dès demain matin, si vous découvrez que le prof de maths de vos enfants est moche, vous exigez immédiatement qu'on change de classe. Si c'est le proviseur qui est moche, là, vous changez votre enfant d'établissement. Parce que, 2 points de différence, c'est ça peut faire quand même une très grosse différence dans la vie. Prenons ceux qui passent le bac. Si t'as 11 au bac, bravo, t'es reçu. Mais avec un prof moche, tu perds 2 points. Je vous rappelle que c'est scientifique. Donc, au lieu d'avoir 11, tu te retrouves avec 9 sur 20. Donc, tu rates le bac. Tu redoubles, tu déprimes, tu sombres dans la délinquance. Puis alors forcément, avec là, tu finis en prison. Donc quand tu passes par la case prison, 2 solutions. Soit on prend pas de douche pendant 2 ans, ça c'est un peu une question de sécurité. Ou alors on se radicalise, on part en Syrie. Résultat, on a la vie qui est foutue. Tout ça à cause de quoi ?
À cause
d'un prof trop moche. Donc excusez-moi, mais ce serait peut-être temps que l'éducation nationale réagisse. Je devrais pas m'énerver, mais quand j'y repense, moi ça me fout le blues sur ma propre scolarité. Parce que si j'avais eu Sophie Marceau comme prof de sciences nat, vous imaginez forcément j'aurais fait médecine. Du coup aujourd'hui je serais chirurgien, je sauverais des vies. Et au lieu de ça, j'ai eu Monsieur Kaltenbach qui louchait un peu comme Dalida avec le physique de Paul Prébois. Et me voilà chroniqueur sur RTL. Donc pour en revenir aux choses sérieuses, si on veut le meilleur pour nos enfants, va falloir payer le prix. Ça veut dire que embaucher des top modèles qui sont payés 10 000 euros la journée, oui, c'est utile. En tout cas, beaucoup plus que des profs moches à 1 800 euros par mois. Ça, c'est évident. Alors, évidemment, ça va un peu creuser le déficit du budget, mais on parle de l'avenir de nos enfants. Donc, c'est une question de volonté politique, tout ça. Bon, en tout cas, Murray Miller est mon héros du jour. Et puis, ça serait vraiment cool qu'à l'avenir, les profs de Sciences Nat ressemblent à Sophie Marceau.
Bah enfin, oui, c'est vrai, ça fait rêver.
Ça se tient, moi, je suis d'accord.
Mais votre héros du jour nous a bien plu. Est-ce que vous avez aussi un salaud à nous présenter?
Allez, d'accord, Stéphane. Vous voulez un salaud?
Ouais.
Je vais vous livrer un nom en pâture. Le gars dont je vous parle s'appelle Travis Wagner. Ah. Alors, si je l'ai choisi parmi tous les voleurs, les vandales, les assassins qui font régulièrement la une des journaux, c'est parce que Travis Wagner a vraiment fait un truc moche.
Ah oui?
Ouais, la semaine dernière, Travis Wagner a cambriolé une ferme en Pennsylvanie. Donc ça déjà, c'est vraiment pas bien.
Pas bien, oui.
Ouais, hein. Mais en plus, il a fait pire. Hein. Parce qu'en plus de cambrioler la ferme, il en a profité pour violer un poney dans l'écurie.
Non.
Ah, si. Et ça, c'est vraiment, vraiment pas bien. Non, non, c'est pas bien.
C'était pas l'inverse.
Non, c'est pas, je suis désolé. Ouais. Prenons un exemple dans les cultures populaires. C'est comme si à Fort Boyard, on se prenait à Passepartout au lieu de Libye Mine. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, c'est vraiment dégoûtant.
Ouais.
Alors, puisque vous me faites l'honneur de me laisser m'exprimer au micro de la première radio de France, je voudrais en profiter pour lancer un message aux auditeurs d'RTL. C'est vrai qu'un joli poney avec sa belle crinière, son corps tout chaud, ça peut être attirant, hein.
Oui.
Surtout s'il vous sort la langue pour vous lécher la main quand vous le caressez. Mais ne faites pas comme Travis Wagner, ne violez pas de poney, je vous en prie. C'est moche de s'en prendre à plus petite fois.
Merci Stéphane Lagomski, on peut retrouver sur RTL.fr.
En plus, c'est la région des Mormons, hein, la Pennsylvanie.
Ah oui,
bah oui.
Mais c'est peut-être pour ça qu'il avait mon nœud se mettre sous la dent.
Bah,
alors, on va retrouver dans un instant Eric Emmanuel Schmitt. On a plein de rumeurs aussi le concernant, alors on va vérifier ce que c'est vrai, tout ce qu'on raconte sur lui. Bah, on va le savoir dans un instant. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
L'interview, c'est vrai que.
Alors, c'est vrai que il y a plein de rumeurs qui circulent sur tous nos invités. Alors, c'est vrai que vous avez commenté pour France Télévisions les JO, mais il paraît que votre devise est la même que Churchill, no sport. Vous aimez écrire sur le sport, en parler, mais pas en faire.
Bah, j'ai des parents qui en ont fait pour moi.
Maman, c'est pas une excuse. Oui,
maman était championne de France de sprint. Son record a mis 20 ans à être battu. Mon père était champion universitaire de boxe. J'avais les parents que tous mes copains voulaient avoir.
Ouais.
Parce qu'ils étaient tout le temps en train de suggérer qu'on aille faire du ski, qu'on parte en montagne, qu'on fasse de l'escalade, qu'on fasse de la voile, qu'on fasse de la natation. Et moi, je leur disais, mais laissez-moi tranquille. Laissez-moi lire dans ma chambre. Laissez-moi faire du piano.
Avoir.
ils ont mieux accepté l'enfant qu'ils ont eu que moi je n'ai accepté les parents que j'avais reçus. Non, je les adore, mais...
Non, mais c'est intéressant.
Mais voilà, du coup, j'ai fait forcer beaucoup de sport, et dès que j'ai pu prendre mes distances, j'ai pris. Mais j'ai gardé le goût de regarder le sport, véritablement.
Ouais, c'est formidable, vos commentaires. Patrice,
est-ce que c'est vrai que vous étiez enfant un bricoleur passionnel, c'est que vous démontiez tous les appareils ménagers?
C'était pas pour bricoler, c'était pour comprendre.
Ah oui.
En fait, je désossais absolument tous les engins. Les électrophones, les magnétophones, la machine à laver.
Et vous saviez les remonter après?
Pas toujours. C'était ça le problème.
Mais aujourd'hui, vous faites hotline pour Internet. Si notre mail ne marche pas, on peut vous appeler à tout moment.
En tout cas, oui, je sers beaucoup. Aujourd'hui encore, je n'ai absolument pas peur de partir à la recherche des fils perdus, des prises.
Ah bon, on va vous laisser dans ce studio pendant quelques heures.
Et d'autres.
Oui, alors, c'est vrai que vous adorez Danse avec les stars?
Oui.
Ah. Non, mais
d'abord, j'ai mon ami
Pietragala
qui est dedans, donc c'est mon alibi.
Mm-hmm.
Et je la regarde parce que c'est mon ami. Et ensuite, il se trouve que j'adore la danse, quoi, tout simplement.
Vous pourriez participer si
pas du
vous
tout. Non, oulala. Moi, je danse comme un sac de plâtre.
Il y en a d'autres, hein.
Oui, j'ai remarqué.
C'est justement.
Ils auraient dû s'abstenir. Non, mais écoutez, moi, je trouve que tous ces jeux-là qui sont autour de l'excellence, c'est-à-dire, au fond, arriver à faire quelque chose le mieux possible, soit chanter, soit danser, c'est très bien. Moi, tout ce qui participe au culte de l'excellence, je suis
bon. Bon, on va vous inscrire à Motus, dans ce cas-là.
Régis, vous avez une petite...
Oui, on raconte que votre entourage vous empêche de passer votre permis de conduire à cause de votre distraction légendaire.
Ouais, ça, c'est vrai. Et je crois qu'ils ont raison, malheureusement. Non, moi, je m'assois dans une voiture, je recommence à rêver, quoi.
Ah oui.
Ah ouais, tout à fait. Et alors, j'ai juste eu un épisode Solex quand j'avais 18 ans et au bout d'une semaine ma mère m'a suivi pour voir comment je circule à Solex et elle m'a vu avec horreur griller tous les feux. À Lyon, l'avenue Duquesne, pour ceux qui connaissent. Et j'arrive au lycée du Parc, elle freine devant moi, elle me disait « Pourquoi t'as grillé les feux ?» Je lui dis « Mais il n'y a pas de feu. » Et le soir, je suis rentré, j'ai vu qu'il y avait 18 feux.
D'accord.
Je n'en avais pas vu un seul. J'étais,
faut voilà. Pas conduire.
Non, faut pas.
C'est fun, mais...
Alors moi, j'ai entendu dire, ce qui m'a surpris d'ailleurs, qu'il y avait des mots auxquels vous étiez allergique. Jamais de mots qui finissent en « as » dans vos livres. Donc pas de poufias, pas de vinas, pas de ragounias.
Non.
Pas de contrebasse non plus.
Ni de bombasse.
Contrebasse peut-être. Hein.
Contrebasse, je mettrais bien, mais j'ai jamais eu l'occasion d'en parler. Mais non, je trouve que c'est vraiment... C'est pour vous tuer un mot, il n'y a rien de oui, tel c'est que vous êtes une terminaison en « as ».
Ouais, mais faire sens,
et j'aime pas non plus l'imparfait du subjonctif à la première personne, à la deuxième, que j'embrasse, que je tue as. J'aime pas ce son « as ».
C'est vrai que c'est pas très joli.
Éviter tout ça, ça doit être une tanasse quand même.
Mais ça va aujourd'hui. Vous étiez longtemps sujet au stress ou à l'anxiété. C'est terminé maintenant?
Quand je prends un avion, toujours.
Ah oui.
Ah, je me tiens prêt à intervenir. Je ne sais rien faire, mais j'interviendrai. Et je prends à peu près 70 avions par an depuis 20 ans. Mais
Là, je suis allé plateau repas.
On va vous présenter Eric.
Belmondo m'avait raconté une jolie histoire là-dessus. C'était à l'époque de l'As des As. Oui. Vous vous souvenez, où il jouait un aviateur, etc. Et il prend le Concorde et avec son italienne à l'époque, Antonella Lualdi, je crois, il était avec elle. Et tout d'un coup, un bruit bizarre, un réacteur s'arrête.
Ah.
Donc un petit peu inquiétude, mais on les prévient, on fait une annonce en disant vous savez, vous en faites pas. Et
tout non, façon, il y en a d'autres.
Il y en a d'autres. Et tout d'un coup, une heure après, paf, un autre bruit bizarre, un deuxième réacteur s'arrête. Oui. Et là, panique totale, les stewards, les hôtesses, tout le monde s'attache, etc. Son italienne prie la Madone, les gens vomissent, les gens crient. Et il y a une dame qui se lève et qui s'approche de Jean-Paul et qui lui dit mais enfin, faites quelque chose. Donc voilà, je me tiens prêt.
Est-ce que c'est vrai que vous avez écrit une suite d'Arsène Lupin ?
Oui, quand j'avais 11 ans. Oui. Alors, j'étais désespéré parce que j'avais lu tous les Arsène Lupin de la collection de mon père. Et j'arrivais pas à me résoudre à ce que ce héros soit mort. Alors j'ai écrit mon premier livre, Une nouvelle aventure d'Arsène Lupin.
Voilà. Vous referiez ça, non ? Aujourd'hui
Un pastiche,
ouais, pastiche
d'Arsène Lupin, ouais, pourquoi pas.
Je me demande si ça n'existe pas, si on n'a pas eu...
Il y a tout un volume je publie chez Bouquin de...
C'est pas Goethe ?
Oui, c'est Adrien Goethe.
Oui,
c'est
vrai, Adrien Goethe l'a fait, et d'autres, et plusieurs personnes ont fait d'autres.
Une autre rumeur, moi j'avais une question que je m'étais notée. Il paraît que vous êtes un très très grand fan des policiers, mais pas de Jack Bauer, plutôt d'Hercule Poirot. Alors, je vois pas trop ce qu'Hercule Poirot est d'intéressant, moi je comprends pas. Vous êtes fan d'Hercule Poirot ?
Ah oui ?
Ah bon ?
Non mais
oui.
Bah, Agatha Christie de manière générale c'est le roman de l'intelligence.
C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai pas
compris.
Non mais elle propose des énigmes.
Non, mais je déteste Agatha Christie parce qu'elle ne donne pas on ne peut pas résoudre soi-même l'énigme. Elle dissimule toujours l'élément qui fait qu'on pourrait trouver.
C'est ça le jeu.
Sinon ça n'a aucun intérêt. Si on
pas d'autres nous permettent de deviner, nous laissent des indices.
Mais la première page,
ça c'est une fiction TF1, on appelle ça.
Oui, mais
ça s'appelle Columbo.
Dernière rumeur, c'est vrai que vous êtes susceptible.
Oui, je pense, oui.
On le voit bien, vous êtes très susceptible.
Bon, ça va, personne n'a envie de dire une chose désagréable.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous retrouvons Éric-Emmanuel Schmitt de l'Académie Goncourt, l'homme qui voyait à travers les visages chez Albin Michel. Justement, c'est Augustin qui est journaliste à Demain. Enfin, Demain, c'est le titre du journal en Belgique. Il a un don. C'est qu'il voit des personnages qui nous accompagnent, qui sont posés sur notre épaule et qui sont anges ou démons, en tout cas des personnages de notre vie, de notre passé, peut-être nous enfants, peut-être des morts.
Souvent, il voit les morts qui accompagnent le vivant, parce qu'on a tous des influences.
C'est-à-dire qu'on est manipulé.
C'est ce que va découvrir Augustin, c'est-à-dire que certains sont sous la domination de leur passé, c'est-à-dire de leur mort. Donc ils ne sont pas libres. Certains sont en dialogue avec leur mort, ça veut dire qu'ils cherchent le chemin de la liberté. Et puis certains sont débarrassés de leur mort, c'est-à-dire ceux-là, ils accomplissent leur chemin tout seuls.
Donc il faut savoir se détacher du passé pour être libre.
Le passé, il a le poids qu'on lui donne. et certains lui donnent trop de poids, donc sont enfermés dans leur passé, donc souffrent, sont conditionnés, et puis d'autres dialoguent avec leur passé ou s'en libèrent.
Vous l'avez vraiment testé la drogue pour rencontrer Dieu.
Alors, je vous ai promis une petite surprise. Eh bien, c'est le moment de la surprise à la lune. qu'on va retrouver, eh bien, je vous donne son nom.
Allez.
Il s'appelle Samson Tessier. Il a 21 ans. Et ça va vous plaire, Éric-Emmanuel Schmitt, parce qu'il est champion de France de Scrabble Duplicate. Alors, Duplicate, je ne savais pas ce que ça voulait dire. C'est-à-dire que tout le monde joue avec les mêmes lettres.
Je crois,
c'est pas comme...
On ne pioche pas. Il n'y a pas de hasard.
Bon, Samson, est-ce que vous êtes en ligne avec nous sur RTL ?
Oui, tout à fait. Bonjour, Stéphane.
Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, bravo, parce que l'année dernière, vous étiez champion de France de Scrabble. C'est pas rien, ça.
Non, en effet, oui.
vous jouez vraiment bien avec les mots. Alors, il y a eu le week-end dernier, il y a eu le championnat francophone, c'est ça ?
Alors, en quelque sorte, oui. C'était une grande compétition organisée par un organisme, en fait, plutôt anglophone, qui s'est mis à organiser des compétitions francophones. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment le championnat officiel, mais c'est quand même une très grande compétition de la même envergure, finalement.
Il paraît que c'est quelqu'un qui ne parle pas français qui a gagné, d'ailleurs.
Ah, le Néo-Zélandais ?
Un Néo-Zélandais, ouais.
Oui, alors, ça, c'était l'an dernier.
Et donc il a mis les mots dans au hasard, et puis en fait ça a marché.
Il a appris par cœur.
Il a appris par cœur le dictionnaire. Alors vous êtes passionné depuis quel âge ?
Alors moi c'est relativement tardif par rapport à ça, mais...
Vous êtes jeune, hein ? Il a 21 ans.
Alors en fait oui, j'ai commencé à 15 ans la compétition.
Oui, à la compétition directement.
Alors j'ai joué un an d'abord sur internet.
Oui.
6 mois avec ma grand-mère.
Je connaissais bien sûr le Scrabble comme tout le monde, hein, finalement.
Oui. Oui.
Et ensuite, je me suis intéressé au Scrabble de compétition. J'ai joué un an sur Internet contre d'autres personnes. J'ai découvert la formule Duplicate dont vous avez parlé. Et donc, voilà, un an après, un 15 ans, je me suis mis à la compétition.
Et vous êtes champion de France, donc c'est très impressionnant.
Mais comment ça se passe ? Tout le monde est aligné avec ses lettres ?
Avec les mêmes mots, oui.
Alors, en fait, il y a un juge arbitre qui possède le sac de Scrabble avec les sortes de lettres dedans.
D'accord.
C'est lui qui tire sa tête au hasard et qui les annonce au micro à tout le monde.
D'accord.
Tout le monde qui est installé sur sa table.
Ah. Et c'est quoi le mot qui vous a fait gagner, Samson ?
E-T. Et a gagné ça.
C'est difficile de répondre à cette question car on a joué environ 100 mots dans ce championnat.
Mais le mot le plus long ?
Le mot le plus long.
Ah bah non, il y a que
c'est idiot.
Il peut pas être long.
C'est pas que ça.
Pardon, ma question était stupide.
Oui.
non, pas du tout.
Mais si, ouais, vous êtes gentil.
Il peut y avoir des d'autres mots, donc ça peut faire des mots plus longs.
Ça peut faire des mots plus longs. Mais cela dit, c'est incroyable le succès du Scrabble. Et vous y contribuez largement, Samson, parce qu'il y a 150 millions d'exemplaires dans 121 pays qui sont vendus. C'est traduit dans une trentaine de langues. Et il y a 300 000 jeux qui sont vendus en France chaque année.
Non.
C'est que les applications sur les smartphones fonctionnent énormément.
Parce que moi, j'ai encore le vieux...
La grosse boîte.
La grosse boîte.
Regardez la grosse boîte.
Ah ben oui, la grosse boîte. Eh bien, vous savez qu'il y a 57% des Français qui en ont un.
Ah, c'est
énorme.
Et 100% des Français qui s'engueulent quand ils jouent au Scrabble.
Et vous connaissez tous les mots qui commencent par X, Y, Z et tout ça. Hein. Donc, par cœur.
Oui, à peu près.
Mais alors, justement, Samson, comment on s'entraîne ? Vous ouvrez, vous apprenez le dictionnaire ? Comment vous faites ?
Alors... En fait, je travaille sur des listes de mots. Je n'ai jamais lu le dictionnaire comme on lit un roman. Certains l'ont fait, mais je trouve ça impossible, beaucoup trop laborieux. Moi, ce que je fais, comme beaucoup d'autres font, j'écris des listes à partir du dictionnaire, bien sûr. Thématiques, des listes thématiques, par exemple, des listes qui sont assez basiques, par exemple, avec les mots qui contiennent le X, qui contiennent le Y, les lettres chères. Je travaille aussi par finale, les mots qui se terminent par heure, par war, par âge. J'essaie de trouver en fait plein de moyens mnémotechniques pour apprendre les mots, pour les imprimer dans mon cerveau et pour les retrouver le moment venu en fait.
Le X vaut cher, vous dites.
Le X est très cher.
C'est très cher. Hein. Enfin maintenant c'est un peu baissé.
Dommage qu'on n'ait pas droit au nom propre parce que moi Blakowski j'ai donc 2 K et un W là. Je vais gagner le championnat.
C'est 40 points.
Éric-Emmanuel Schmitt.
Moi je joue en polonais uniquement.
Ah bon.
Parce que comme
c'est
ça,
plus facile.
Je peux mettre tous les Z, les K, les Y, les W.
C'est pour les voyelles que
vous êtes un malin.
Voilà.
Et cela dit, on ne pourrait pas vous contredire parce que nous ne le parlons pas. En tout cas,
vous serez au championnat de Lille.
Excusez-moi.
Est-ce que vous serez à Lille au championnat de Scrabble ?
J'y ai participé, oui.
Ah oui, d'accord. Et la prochaine compétition, c'est quand ?
Oh, alors la prochaine grande échéance, c'est à la Toussaint.
D'accord.
Il y a ce qu'on appelle un festival du Grand Chelem, comme en tennis en fait, qui se déroule à Aix-les-Bains, en Savoie. Bon, et vrai, je vais donc y prendre part.
Bouquet de chrysanthèmes sera offert au vainqueur.
Très bien. Et bien bravo. En tout cas, merci beaucoup. Samson Tessier, 21 ans, champion de France de Scrap Duplicate. Merci d'avoir été avec nous sur merci. RTL ce matin.
Je vous remercie.
Alors, on peut faire gagner eh bien, un Scrap ce matin. Ouais. Pour ça, il faut s'inscrire, peut-être le remporter. Alors, faites retweeter, follower la photo de l'invité et suivez-nous sur le compte à la bonne heure sur les réseaux sociaux de Twitter. Merci à tous. On se retrouve dans un instant pour continuer évidemment à parler avec Éric Emmanuel Schmitt et puis la télé d'Éric Dussard.
Vous écoutez RTL. À la bonne heure. Éric Dussard met la télé sur écoute.
Alors, Éric, on commence avec eh bien, celui qui est sorti du bois hier et du gouvernement.
Mais de quel bois ?
C'est Éric Emmanuel.
Éric Emmanuel Schmitt.
Vous êtes démissionné ?
Vous étiez ministre
du gouvernement.
Mais à force de dire Éric Emmanuel, j'ai Éric Emmanuel Macron.
Voilà, c'est ça. Alors, il était au 20h de TF1, interview au cours de laquelle on a découvert qu'en réalité, il ne quittait pas Bercy pour se lancer dans la course à la présidentielle, mais pour rejoindre le ministère de l'Éducation nationale, où il va proposer une nouvelle réforme de la langue française.
Je pense qu'aujourd'hui, parce que les circonstances sont différentes, parce que nous devons être responsables. Et donc, c'est d'abord le contenu, le comment, le que faisiez-vous. Le que faisiez-vous ?
C'est vrai, ça. Que faisiez-vous ? Hein ? Comment voulez-vous réformationner ce pays, franchement ?
Hein ? Ah oui, là, ça m'a impressionné. Ah
bah, gaulé, là, aux 20h de TF1, avec autant de téléspectateurs, en plus.
Il a dû se faire engueuler chez lui.
Je pense que tout ce que je t'ai appris, ça n'a servi à rien. Alors, s'il a un peu de temps, je lui conseillerais de faire quelques petites révisions devant des chiffres et des lettres sur France 3. Encore qu'en ce moment, ça part un petit peu en toupie, cette émission, vous allez le voir. Je pense qu'on va avoir des problèmes dans les foyers logements, parce que là, ils sont en train de nous les exciter à l'heure du goûter.
Pierre. Sept lettres. Brigitte.
Sept lettres.
Pierre.
Chienne.
Ah, bon. Pierre.
Oui. Baise.
Oui.
Baiser.
Baiser, oui. Bonas, en sept. Ah, binouze. O-U-S-E ou O-U-Z-E, comme partouze, etc. Tantouze.
Des chibres et des lettres. Ce sera le nouveau titre de cette émission pour la rentrée.
Ce que j'aime bien, c'est le ton monocle.
Oui,
bah,
oui, bien sûr.
On avait Bonas
avec beaucoup de sérieux.
Partouze.
Oui, oui, bien sûr, oui. Alors, toujours sur France 3, sinon, changement de nom aussi pour question pour un champion. Hein.
Et après ce roulement de tambour, vous me dites Leslie ?
Je me suis toujours dit que question pour un champignon, c'est champion.
Yamine, donc ingénieur, ça c'est très sérieux. Mais vous jouez également dans un groupe de métal.
Je chante pour être plus précis.
Et vous pourriez m'en faire un bon petit cri de métalleux ? Métal !
Yeah ! Et ben voilà, encore 180 sonotones foutus dans le public. Bravo monsieur ! Ah, il va payer les réparations. Là, ils sont bizarres. Je vous dis, ça a beaucoup changé depuis que Julien Lepers est parti. Je ne sais pas où il les recrute, les candidats.
C'est les autres qui chantent,
maintenant. Ouais, maintenant, ce n'est plus le présentateur, mais les candidats. Des candidats étranges qui ont d'ailleurs parfois des professions, elles aussi, assez spéciales. Monsieur, par exemple, qui était à question pour un champion, a un job, mais alors, purement mortel.
Yves, c'est pas tous les jours qu'on rencontre un gardien de cimetière, c'est vrai.
C'est vrai. Hein,
ça m'a étonné la première fois qu'on s'est parlé, bah ça m'étonne toujours quand même. Parce que c'est un métier un peu à part quand même.
C'est particulier.
Il y a une école pour devenir gardien de cimetière, il y a des formations.
Non, je plaisante.
Non, non mais il pourrait y avoir des formations.
Non, non, bah, on se forme sur le tas.
Sur le tas.
Oui, sur le tas, c'est le cas de le dire pour un cimetière. Sur le tas de terre. Hein. Après, si tu veux en savoir plus, tu peux toujours creuser, hein, évidemment. Question pour un champion qui, comme son nom l'indique, n'accueille que des champions. Et voici le champion du jour. Il devait reconnaître sur la base d'Acry le nom d'un mammifère volant. En l'occurrence, la chauve-souris. J'ai bien dit mammifère volant.
Et maintenant, écoutez ceci. Alors, vous venez d'entendre ici quoi ? Eh bien, les cris poussés par un mammifère volant.
La truie ?
Une truie volante, bien sûr. Après, ça existe, c'est joli, hein, les trucs, leurs petites ailes, comme ça, c'est mignon. Hein. Ou alors, je sais pas, on fait du lancer de truie, peut-être aussi, maintenant. Dans ce cas-là, elles auraient un cri autrement plus strident que ce que l'on vient d'entendre.
Et c'était quoi, en fait ?
Ben, c'était la chauve-souris.
La chauve-souris.
Non, mais... ben, j'avais donné la réponse dans l'enlèvement, preuve que vous ne m'écoutez pas.
Non, je ne vous écoutais pas, mais...
C'est pas un problème.
Ça aurait pu ressembler à un cri de cochon.
Troisième jour, donc, hein, vous êtes déjà désagréable.
Un cri de cochon, ouais. Moi, j'aurais bien dit une
truie, oui.
Qu'on jette par la fenêtre, forcément, qu'est-ce qu'elle fait, le cri, quoi.
Ce soir, c'est Zone Interdite sur M6.
Oui, dernier numéro de ces spéciales de l'été. Alors, au sommaire, croisière sur le plus grand paquebot du monde. Ah. J'espère que ce sera aussi intéressant que leur grande enquête l'autre jour dans les coulisses des toilettes d'une station-service.
C'est vrai ?
Ouais, ça, c'est du journalisme d'investigation. C'est vrai que ça peut être plus risqué que de couvrir une guerre. Vu les odeurs dans les toilettes, tu peux mourir immédiatement. D'ailleurs, à ce sujet, ils ont interviewé Monsieur Canard WC.
Le passage obligé, ce sont les toilettes. Il y en a 24 répartis en 4 lieux. Un cauchemar pour Olivier, car il faut en permanence les maintenir propres.
Ce qu'on a fait ces dernières semaines, c'est qu'on a mis des orchidées dans les toilettes pour faire joli. Ça donne une touche de gaieté. On a changé nos appareils olfactifs et l'odeur, c'est frangipane. Donc c'est bien, parce que bon, c'est quand même très agréable de rentrer dans des toilettes où ça sent bon.
Oui, puis je pense que ça a bien relancé le marché de la galette des rois.
La galette,
ouais. On va associer frangipane et toilettes d'auto.
On gagne une fève,
c'est ça. C'est qui va chercher la fève dans la cuvette, hein? À qui le tour?
Bizarre.
Ah. Ça changera de la galette des automobilistes malades, vous me direz, mais ça donne pas tellement envie en tout cas. Oui.
Et on termine avec Moundir.
Oui, ça c'est pour vous, Eric Emmanuel Schmitt. C'est Moundir, ex-candidat de Koh-Lanta. Alors lui, ce n'est pas l'homme qui voyait à travers les visages, mais l'homme qui voyait les visages de travers. Souvenez-vous.
Ça a été un vrai coup de cœur lorsque j'ai vu ton visage assis sur le fauteuil.
Le visage assis sur le fauteuil. Donc elle avait les jambes le long du dossier. Ce qui n'est pas une position très confortable. Faut bien le dire.
C'est Picasso. Merci. Et Mussard, on vous retrouve demain, évidemment, pour la suite de vos aventures télévisuelles.
Je vais aller parfumer les toilettes à la frangipane, si vous le voulez bien, pendant les infos.
Mais c'est passionnant, je ne savais pas qui s'intéressait à ce genre de sujet. Et on va retrouver Eric Emmanuel Schmitt de l'Académie Goncourt, l'homme qui voyait à travers les visages chez Albin Michel. Et puis tout à l'heure, évidemment, eh bien, on va retrouver vous, Régis Maillot.
Oui,
vous,
oui. Vous savez comment, vous, pour la rentrée des classes.
La rentrée des classes. RTL, il est midi.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure. Stéphane Bern.
Et toujours avec Eric Emmanuel Schmitt, qui a une actualité chargée. Je vous l'ai dit, il y a trois pièces, trois spectacles au Théâtre Rive Gauche. Il y a Petit Crime Conjugaux, mise en scène par Jean-Luc Moreau avec Fanny Contenson et Sam Carman. C'est à partir du 29 septembre. Il y a Le Chien, toujours d'Eric Emmanuel Schmitt, mise en scène de Marie-Françoise et Jean-Claude Broche avec Mathieu Barbier et Patrick Dehun. C'est à partir du 1er octobre. Et puis on reprend Barbara et l'homme en habit rouge, un spectacle musical de et avec Roland Romanelli et Rebecca May. Et c'est vous qui faites la mise en scène.
Oui.
Ça n'arrête pas au Théâtre Rive Gauche. Il y a toujours un spectacle.
On est très heureux avec ce Barbara parce qu'on a commencé au mois de janvier. Mmh. Et vous voyez, le spectacle continue encore. Mmh. Et moi, j'adore le répertoire de Barbara.
Évidemment.
Et c'est Roland Romanelli qui est quand même qui a été l'accompagnateur.
Oui.
Et un peu plus que ça pendant quelques années.
Oui.
Qui nous raconte, voilà, de façon intime et à la fois professionnelle, ce que c'était que de passer 20 ans avec Barbara. Donc c'est précieux, quoi. On passe et puis on éclaire le génie de Barbara en passant par justement son génie féminin. Mmh. C'est-à-dire, c'est vraiment une femme qui raconte sa vie, ses désirs, avec d'ailleurs une audace et une insolence qu'on n'aurait plus aujourd'hui. Mmh.
Juste un mot encore sur le livre, L'homme qui voyait à travers les visages. Moi, j'ai trouvé une morale. Je ne sais pas s'il faut, mais quand on lit un livre, après, ça nous touche ou pas. Mais là, ça m'a touché. Je me suis dit, au fond, on dit toujours que c'est la faute de Dieu s'il y a tant de violence, alors qu'en fait, c'est la manière dont on lit les textes sacrés. C'est nous qui sommes responsables de l'exégèse qu'on en fait, de notre lecture.
Complètement. Pour moi, il n'y a pas de livre, il n'y a que des lectures. Le même livre peut être un trésor d'intelligence, d'élévation et de spiritualité lu par certains. Et ce même livre peut être une incitation à la bêtise, à la violence et à la haine, lu par d'autres. Donc en fait, l'homme est responsable, ultimement. C'est mon humanisme que j'affirme à travers ce livre. C'est-à-dire que Camus disait c'est l'homme qui a la charge de l'homme. Mais moi, j'ai envie d'ajouter, c'est aussi l'homme qui a la charge de Dieu. C'est-à-dire, c'est l'homme qui a la charge de faire en sorte que les grands livres sacrés puissent être des livres qui nous éclairent plutôt que des livres qui obscurcissent le paysage.
Eh bien, continuer à faire avancer les lumières, et bien, on va retrouver maintenant Régis Maillot.
À la bonne heure, la marque du maillot.
Alors, nous sommes mercredi 31 août et c'est la rentrée des classes. Alors attention, uniquement pour les profs. Et oui, c'est une spécificité française, les profs rentrent avant les élèves, un peu comme aller aux pompes funèbres un jour avant de mourir. 800 000 enseignants reprennent le chemin de l'école pour la journée de pré-rentrée. Alors pourquoi les profs reprennent l'école
un jour avant, bon bah déjà pour se mettre à niveau, il faut apprendre le nom du nouveau ministre en général, et surtout pour que nos enseignants décompressent. Tu m'étonnes, 60 jours de vacances à photographier des marmottes dans un camping naturiste en Ardèche, t'as besoin de 24 heures pour revenir aux réalités pédagogiques. Eh bien, en exclusivité pour À la bonne heure, nous avons assisté ce matin à la pré-rentrée de profs dans un lycée de banlieue parisienne. Bonjour, bonjour, bonjour à tous et bienvenue au lycée Valéry, hein ? Non, pas Paul, François Valéry. Les parents d'élèves ont exigé de monsieur le maire de faire changer le nom du lycée par une personnalité qu'il connaissait. Eh, ça s'appelle la modernité. Oui, la connerie aussi. Alors passons. Je me présente, je m'appelle Patrick Balkany. C'est un homonyme. J'habite en HLM, je ne les fabrique pas. Hein. Je suis le nouveau proviseur du lycée. Mon prédécesseur est décédé suite à ses blessures, hein, vous le savez. Alors, l'objectif de cette pré-rentrée est de vous éclairer sur les nouvelles orientations stratégiques mises en place par le Conseil national de simplification ainsi que de l'amélioration de la vitalité du métier d'enseignant. Bref, de tisser des liens entre collègues. J'ai dit des liens, Jean-Patrick, hein, on n'est plus en Ardèche, hein, calme-toi. Hein. Mireille est déjà enceinte de 6 mois. De gérer les problèmes de logistique et d'organiser l'accueil des délinquants. Des élèves. Alors, pour les nouveaux, cette année, le rectorat a pensé à vous. Devant votre siège se trouve une petite boîte en carton. Surtout, ne la perdez pas. Il n'y en a qu'une par enseignant. C'est votre boîte de fourniture. À l'intérieur, vous trouverez tout ce qui est nécessaire pour bien démarrer l'année et espérer la terminer, surtout. Alors, je vous propose qu'on détaille ensemble le contenu. Important, un détecteur de métaux. Pensez à l'utiliser quotidiennement. Sur tous vos élèves. Hein. Un oubli est si vite arrivé et ensuite, on le regrette longtemps. Hein. Demandez à Jean-Patrick que tout le monde ici appelle Pistorius. Un kit de premiers soins, pansement, mercurochrome, morphine et à la demande de certains, vaccins contre la rage. Eh oui, 2 cas l'année dernière hein, quand même. 4 tubes de Lexomil, 1 par trimestre et non par semaine. L'année dernière, Mireille, qui est un peu sensible, a avalé ses 4 tubes dès la première journée. Hein. Elle a compté les mouches jusqu'aux vacances de la Toussaint. Passons aux outils pédagogiques. Alors, j'ai une excellente nouvelle, chers confrères. Cette année, le rectorat a débloqué un budget. Chaque enseignant sera équipé d'une tablette. Ben, en revanche, compte tenu du coût, les chargeurs ne pourront être livrés que l'année prochaine. Bonne et mauvaise nouvelle. Cette année, vous avez tous une carte de photocopie. Oui, ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'il n'y a plus de photocopieuse. Non, elle n'a pas été volée. On a dû la vendre pour financer l'achat du distributeur de préservatifs que Najat Vallaud de Belkacem a exigé de faire installer dans tous les établissements secondaires. Autre nouveauté, cette année, on double les effectifs. Hein ? Non, pas les profs, les élèves. 60 par classe en moyenne. Oui, je fais mon possible pour réparer la clim. En ce qui concerne les programmes, on a supprimé les cours d'histoire et de philo pour une initiation à Wikipédia. Eh, c'est pas mal. Hein. Pour les plus assidus, le replay des émissions de Stéphane Bern seront diffusés le mercredi. Alors, comme vous le savez, cette année, l'apprentissage d'une seconde langue étrangère a été supprimé au collège. Cependant, à François Valéry, nous avons fait le choix d'enseigner une première langue étrangère dès la primaire. Laquelle ? Le français. Réforme des rythmes scolaires. Nous allons tester un atelier, ma foi, un peu exotique cette année. La lecture, eh oui, la lecture. Se pose alors aussi le problème du financement des activités extra-scolaires, pardonnez-moi. Cette année, nous avons eu la chance. Nous avons la chance de recruter 3 éducateurs formidables, confirmés, formés au centre Boringiste et qui ont consenti à faire un effort financier conséquent et on les remercie. Pardon, monsieur Pichard, Boringiste, c'est la prison pour pédophiles ? Peut-être, mais c'est moins cher et ce sont des professionnels. Hein. Au moins, les gamins ne feront pas semblant de courir pendant le sport.
Ah voilà. Non.
Et on termine, si vous voulez bien, cette réunion par notre rituel de début d'année. Hein. Vous avez tous rempli votre papier avant de le déposer dans l'urne. Jean-Pierre, à toi l'honneur, tu tires un papier. 23 novembre, et bien alors cette année, la date de la première grève sera le 23 novembre. Et voilà.
Merci Régis Maillot, qui sera en tournée dans toute la France. Il y a plus de 40 dates à Lyon, Châteauneuf-sur-Isère, Aix-les-Bains, Aix-en-Provence et à l'Alhambra de Paris, évidemment, le 29 novembre.
29 novembre, madame.
Très bien.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Et toujours avec Eric Emmanuel Schmitt. Alors, c'est le moment de vous poser eh bien, la question, si j'étais président.
Je serais le président de toutes les Français.
À la bonne heure, si j'étais président.
Toutes les Français.
Ah oui, mais, ouais, il faut d'abord que je sauve.
On va écouter cette petite musique pendant 10 minutes.
Ah oui. Quel serait votre slogan si vous étiez président ?
Un pour tous, tous pour un. Ah, mais dans l'esprit chevaleresque.
C'est pas la devise de l'épicerie ?
Non, mais vraiment dans l'esprit des trois mousquetaires. C'est-à-dire que, voilà.
Parce qu'en ce moment, c'est...
C'est chacun pour soi.
Chacun pour soi, oui.
C'est chacun pour soi.
Un pour tous et tous pour chacun pour soi.
On peut vivre ensemble qu'en dessinant un projet commun et en liant des liens de fraternité. Parce que c'est vrai, quand on regarde égalité, liberté, fraternité, ça ne tient que par la fraternité, tout ça. Mmh. Parce que la liberté... l'égalité sans fraternité, c'est le totalitarisme. La liberté sans fraternité, c'est l'individualisme. Individualisme absolu. Mm-hmm. Donc vraiment, le terme de fraternité est très important, d'où les trois mousquetaires, un pour tous.
Quand vous dites ça, ne levez pas ce doigt, s'il vous plaît.
Et alors, l'autre question, c'est quel hymne ou quelle chanson ?
Ah oui, j'ai pensé à Brel. Ah,
laquelle ?
Quand on n'a que l'amour.
Ah, quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles.
Ce serait pas une présidence très disco, hein.
Mais c'est mieux qu'un sanguin pur.
Ah oui, à la place pour remplacer la Marseillaise.
Bah oui.
Sinon, pour les meetings, avec le temps, ça lance bien l'ambiance.
Et puis, sinon, il y a Je suis malade aussi.
C'est bien, ça aussi.
De
ça,
Serge
Lama. En fin
c'est à la fin.
C'est beau quand même, quand on a clavou.
Non, mais c'est beau, c'est magnifique. Oui. Et puis, un auteur que vous pourriez exiger. À l'éducation nationale, un auteur qui n'est pas dans le programme, à part vos livres.
Oui, mais ils y sont déjà, oui, moi, donc ça va. Non, Charles Trenet.
Ah, bien.
Voilà, Charles Trenet.
Ah oui, poète.
Grand poète. Moi, je suis fou de Charles Trenet. Et puis, pour que, voilà, on cultive plutôt la joie que l'amorosité.
Oui. Bonjour, les
Isandales. Il y a de la joie. Dans le
c'est mieux comme hymne national, ça.
Voilà. Ou alors Douce France, comme hymne national.
C'est vrai, comme hymne Douce France, cher pays de mon enfance, ça serait super.
Ça serait joli,
mais ça ne correspond plus trop.
Douce France, cher pays de mon enfance, on va les niquer.
Régis, non. Vous salissez tout. Voilà. Bon, allez, il nous reste, puisque vous voulez chanter, vous allez voir. Les hymnes, et ben c'est le test à l'aveugle de Patrice Carmouze. Et puis on va gagner surtout 5 des cartables de Tans, des trousses de Tans et des tablettes tactiles de Tans.
Vous écoutez RTL.
Le test à l'aveugle de Patrice Carmouze.
Et voilà, c'est le moment du test à l'aveugle. Alors, on va jouer. Il y a deux équipes, hein, vous le savez. Il y a l'équipe SB avec Éric-Emmanuel Schmitt et moi. Et on va jouer pour Sophie. Et puis, il y a l'équipe RM, ça veut dire Reste du Monde.
Voilà,
tous les autres.
Non, là, c'est Reste à la maison aujourd'hui.
Et d'ailleurs, je rappelle qu'on peut s'inscrire par SMS avec le code de la bonheur 74 900 ou alors sur la page Facebook de l'émission en envoyant un message privé en disant pour quelle équipe vous voulez jouer. Alors, on joue autour des hymnes nationaux.
Bah oui,
parce que c'était évidemment
des consultants pour les Jeux Olympiques. Donc on a entendu tous les hymnes nationaux aux Jeux Olympiques.
Ceux qui ont gagné des médailles.
Alors vous peut-être laissez un peu d'avance au reste du monde peut-être.
Parce que non. Allez,
on commence. On commence.
États-Unis. C'est la Brabançonne.
Ça fait moins 1 pour SB.
L'hymne de Belgique. Ah non, l'hymne de la Belgique.
Donc c'est la Belgique.
Ah oui.
Non, c'est moins 1, il s'est trompé.
Non, mais attendez.
Il faut attendre un peu, il faut écouter.
J'ai entendu le premier.
Une fois qu'on a donné une mauvaise réponse, on doit laisser la parole à l'équipe.
Alors, attendez,
monsieur, ça me regarde.
Vous n'avez rien.
Alors.
Bah si, on a dit derrière la Brabançonne.
Ah non,
le point va à Stéphane.
Merci.
Alors, deuxième extrait.
La Brabançonne. Les juges sont achetés.
Aux
États-Unis.
J'aime pas du tout cette hymne.
Benoist, voilà. Alors c'est assez amusant parce que c'est un poème d'un jeune avocat qui s'appelait Francis Scott Key. Et c'est une musique qui était une musique d'un groupe britannique qui était une chanson à boire au départ.
Non.
Ah bon ? Ils ont allié les deux.
Et le point ?
Le point va à Stéphane.
C'est pas un replay pour.
Concentrez-vous, la suite. Allez, troisième extrait.
C'est pas la joie en tout cas.
Non, c'est pas la joie et ça dit.
Attendez, je connais.
C'est quoi ? Quel côté ?
C'est très loin.
C'est loin ?
La Chine.
Non. Le Japon, le pays du soleil levant. Ouais, c'est Kimigayo, c'est-à-dire pourvu que votre règne dure mille ans, puisque ça s'adresse à l'empereur.
C'est-à-dire, allez les gars, on se sort les doigts du jeu.
Et c'est l'hymne le plus court d'ailleurs. Allez, c'est pas un extrait.
La Russie.
Ah non, mais c'est pas possible.
On reconnaît bien le style russe en même temps.
Oui, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas changé l'hymne. Oui. C'est la même musique que l'hymne soviétique, ils ont juste changé les paroles en 2000 avec Poutine. Voilà.
Vous auriez dit Japon, par exemple, on ne vous aurait pas cru, là.
Alors, attends, et celui-là est assez étonnant, tiens.
Canada.
Non, c'est la Chine. C'est la Chine.
Ah, oui, c'est écrit. De l'Ouest. Vous connaissez l'hymne de la Chine.
Bah, oui. Ça s'appelle la marche.
Le matin, moi, dans l'autoradio, un petit coup de Chine, là.
Ça s'appelle la marche des volontaires.
Et Régis, c'est parce qu'il part en vacances avec Mireille Mathieu. Souvent. C'est pour ça.
Ça s'appelle la marche des volontaires. Ça a été composé par un certain Tian Han qui est mort pendant la... qui a été condamné et mort pendant la révolution culturelle.
Exactement. Et ça, il le savait aussi, Stéphane. Il aurait pu le dire.
Non. C'est pour ça qu'il est exactement l'origine. À la fin de la phrase.
Autre extrait.
Tintin.
Italie.
Tintin.
5-1. Pour nous, là.
Non,
écoutez, non,
il a dit en même temps.
Il l'a dit en même temps. C'est pas parce que je suis nouveau qu'il faut commencer à me retirer des points.
Laissons-la gagner aujourd'hui, au moins un jour dans l'année.
Ça s'appelle de frère d'Italie, hein. C'est de Manelli. Et puis, alors, dernier extrait. La marche arrière, l'Espagne.
La marche arrière?
Non, la marche arrière. La marche royale.
D'accord. Ah, j'ai compris, la marche arrière.
Le seul hymne qui n'a pas de parole.
Le plus ancien hymne d'Europe, je crois, qui date de 1761.
Il y a le Danemark aussi, qui est très ancien.
Pas mal, mais enfin, celui-là, il doit être le plus ancien.
Mais il n'a pas de parole.
Ben bravo, vous voulez un dernier pour... Allez.
Luxembourg, Liechtenstein, Portugal.
C'est l'hymne de grec.
Pas avec des paroles.
Ah bah avec des paroles.
Mais attendez, vous avez pris une version des colonels.
Oui.
Vous avez pris la version de 1960.
C'est clair. Enfin, c'était un bonus, ça. C'était pour juste.
Je l'ai sur mon portable.
Les vacances. Beaucoup plus.
Je l'ai sur mon portable.
Ah ben non, les vacances, je vous assure, c'est pas ce rythme-là. Hein.
Ça donne envie d'envahir la Macédoine. Ah.
Je vous rassure, c'est déjà fait.
Eh ben c'est Sophie qui a gagné alors.
Eh ben c'est Sophie.
Parce bravo, qu'elle jouait avec l'équipe SB. Pour une fois que je peux faire gagner une auditrice.
Alors elle gagne cartable, trousse et tablette tactile de Tans. Merci à tous. J'ai juste le temps de remettre. On peut s'inscrire pour jouer demain, évidemment, avec notre invité qui sera
Michel Drucker,
absolument l'invité, parce que Michel Drucker monte sur scène à Paris.
Oui.
Il est au théâtre des Beaux Parisiens.
Ben oui.
Moi j'étais à Avignon, oui.
Non, mais vous êtes monté sur scène aussi.
Oui. Mais à un moment, on ne peut pas résister. Quoi.
Ah oui. Non, l'appel du public.
L'appel de la rencontre avec le public.
C'est jouissif, oui.
C'est effrayant. Je veux dire, moi, les premières fois, je vomissais en coulisses avant de monter sur scène.
C'est mieux que sur scène, déjà.
Déjà.
Sur les trois premiers rangs.
Et maintenant, j'ai toujours autant peur, mais je ne vomis plus.
Brel aussi, paraît-il, vomissait.
Mais oui, parce qu'on a l'impression qu'on va se rouler à la guillotine, quoi, qu'on risque de tout perdre et en même temps de tout gagner. Mais bon, à chaque fois, ça c'est...
Très formidablement
ouais,
bien passé.
Le public est gentil, en tout cas, il aime. Et ça guérit de la solitude de l'écrivain. On est tout seul. Et là, tout d'un coup, on vibre avec un public entier.
En tout cas, il y a plein de gens qui vous lisent. Et je rappelle le titre de votre nouveau livre, L'homme qui voyait à travers les visages, chez Albin Michel. Merci beaucoup, Eric-Emmanuel Schmitt, de l'Académie Goncourt. Et mardi prochain, il y a la première liste. Voilà. Et demain, je vous l'ai dit, Michel Drucker. Merci à tous d'avoir suivi RTL. Il est midi et demi.
Vous écoutez RTL.